Ivanhoé, chapitre 8. En ce moment, l'agresseur, par un orgueilleux défi, embouche la trompette. Son adversaire lui répond. Les fanfares belliqueuses retentissent dans la plaine et jusqu'aux voûtes du ciel. Les visières abaissées, les lances en arrêt ou poussées sur le casque ou le cimier, les combattants franchissent la barrière, pressent leurs coursiers de l'éperon et dévorent l'espace. Dridon, Palémon et Arcite. Au milieu de sa cavalcade, le prince Jean s'arrêta tout à coup et, s'adressant au prieur de Jorvaux, lui dit qu'on avait oublié la principale affaire du jour.
« Par la Sainte Église, ajouta-t-il, nous avons en effet, sire prieur, omis de désigner la reine de la beauté et des amours, dont la belle main doit poser la couronne sur la tête du vainqueur. Pour ma part, je suis libéral dans mes idées et je donnerai volontiers mon vote aux yeux noirs de Rebecca. »
« Par la Sainte Vierge, répondit le prieur, étourdi d'une telle proposition, une juive !
Nous mériterions d'être lapidés dans la lice, et je ne suis pas encore assez vieux pour désirer le martyr. D'ailleurs, par mon saint patron, elle est beaucoup moins belle que l'aimable saxonne Lady Rowena. Saxon ou juif, chien ou pourceau, qu'importe. Je penche pour nommer Rebecca, ne fût-ce qu'afin de mortifier ses rustres de saxon. »
Un murmure s'éleva parmi ceux qui l'entouraient.
« Ceci passerait la plaisanterie, mon prince, » dit de Bracy. « Aucun chevalier ne lèverait la lance si une pareille insulte leur était faite. »«
Ce serait un sanglant outrage, » dit Valdemar Fitzurse, un des plus vieux courtisans du prince. « Et si votre grâce persiste dans cette idée, c'est vouloir la ruine de vos projets. »«
Je vous ai pris pour me suivre, et non pour me conseiller, baron, » dit le prince en faisant faire une volte à son palefroid avec un air de dédain.
« Ceux qui suivent votre grâce dans les sentiers où vous marchez, » dit Valdemar en baissant la voix, « ont acquis le droit de vous donner des conseils, car leur intérêt et leur sûreté n'y sont pas plus engagés que les vôtres. »
Au ton avec lequel parlait Fitzurse, le prince sentit la nécessité de se rétracter.
« Je ne voulais que plaisanter, » dit-il, « et vous vous dressez tous contre moi comme autant de serpents. Nommez qui vous voudrez de par le diable, et j'approuverai votre choix. »
« Non, non, » dit de Bracy, « que le trône de la belle souveraine reste vide jusqu'à ce que le vainqueur soit proclamé, et lui-même choisira la dame qui devra y monter. Ce sera donner plus d'éclat à son triomphe, et apprendre aux dames à priser l'amour des vaillants chevaliers qui les élève à une telle distinction.
« Si Brian de Bois-Guilbert gagne le prix, » dit le prieur, « je gage mon rosaire que je nomme d'avance la reine de la beauté et des amours. »
« Bois-Guilbert est une bonne lance, » dit de Bracy, « mais il y en a d'autres que la sienne dans cette lice. » et qui ne craindront pas de le rencontrer.
« Silence, messieurs, » dit Valdemar, « et que le prince monte sur son trône. Les chevaliers et les spectateurs semblent impatients, l'heure s'écoule, et il est temps que le tournoi commence. »
Le prince Jean, bien que non encore investi de la couronne, trouvait dans Valdemar Fitzurse tous les inconvénients d'un ministre favori qui, en servant son maître, pense toujours à son propre avantage. Il céda néanmoins, quoique son caractère fût un de ceux qui montrent souvent le plus d'obstination dans les choses les plus futiles. Et après avoir pris place, environné de son cortège, il donna le signal aux héros d'armes de faire connaître les règles du tournoi, qui consistait en ce qui suit. Premièrement, les 5 chevaliers tenants devaient accepter le combat contre tout venant. Deuxièmement, tout chevalier prêt à combattre pouvait choisir son adversaire parmi les tenants en touchant son bouclier. S'il le faisait du revers de sa lance, le combat devait avoir lieu avec ce que l'on nommait les armes courtoises, c'est-à-dire avec des lances à l'extrémité desquelles était fixé un morceau de bois aplati, de façon que l'on ne courait d'autres dangers que ceux qui résultaient du choc des coursiers ou de celui des lances. Mais, si l'assaillant touchait le bouclier avec le fer de sa lance, le combat était à outrance, c'est-à-dire à fer affilé comme dans une véritable bataille. Troisièmement, quand les chevaliers présents auraient accompli leurs vœux en rompant chacun 5 lances, le prince devait proclamer le vainqueur du premier jour du tournoi, qui recevrait pour prix un cheval de bataille de la plus grande beauté et de la plus grande vigueur. Le chevalier couronné avait en outre le droit de nommer la reine de la beauté et des amours, qui décernerait le prix du jour suivant. Quatrièmement, le second jour devait être un tournoi général auquel tous les chevaliers présents qui désiraient obtenir quelques louanges devaient prendre part et, partagés en 2 troupes d'égal nombre, combattre vaillamment jusqu'à ce que le prince Jean donna le signal de terminer la lutte. La reine de la beauté et des amours devait alors poser sur la tête du chevalier, que le prince proclamerait vainqueur du second jour, une couronne d'or en forme de feuille de laurier. Cette cérémonie terminait les jeux chevaleresques,
mais le lendemain était consacré à ceux des archers, la joute à l'arc, le combat du taureau et autres amusements populaires. C'est ainsi que le prince essayait de jeter les fondements d'une popularité qu'il minait sans cesse par les actes arbitraires les plus propres à lui aliéner les cœurs et les esprits. La Lys offrait alors le spectacle le plus magnifique. Les galeries supérieures étaient remplies de tout ce que le nord et le centre de l'Angleterre renfermaient de nobles, de grands, de riches et de plus beaux dans les deux sexes. Le contraste des différents costumes de cette première classe de spectateurs en rendait la vue aussi agréable qu'imposante, tandis que l'intérieur et l'espace le plus bas étaient remplis de riches bourgeois et d'habiles archers qui formaient par la simplicité de leurs vêtements une frange ou bordure noire autour de ce cercle de brillantes broderies dont elle relevait encore la splendeur. Les héros d'armes ayant achevé leur proclamation par le cri d'usage « Largesse, largesse, vaillant chevalier !» Une pluie de pièces d'or et d'argent tomba sur eux du haut des galeries, car c'était une loi rigoureuse parmi les chevaliers de montrer leur libéralité envers ceux que l'on regardait à la fois comme les secrétaires et les historiens de l'honneur. Après avoir reçu cette marque de générosité, ils poussèrent les acclamations usitées. « Amour aux dames, mort des champions, honneur aux généreux, gloire aux braves !» Acclamations auxquelles le bas peuple ajoutait les siennes et de nombreuses trompettes leurs fanfares belliqueuses. Quand le bruit eut cessé, les héros d'armes sortirent de la lice avec ordre et il n'y resta plus que les maréchaux du tournoi, à cheval, armés de pied en cap, immobiles comme des statues, chacun à une extrémité. Cependant, l'enclos situé à la partie méridionale de l'arène renfermait une affluence de chevaliers désireux de prouver leur force et leur courage contre les tenants. Du haut des galeries, cette foule de guerriers présentait l'image d'un océan de plumages flottants, entremêlés de casques brillants, de fers de lance au bout de la plupart desquels étaient attachés des panonceaux d'un palme de large, qui, balancés dans le zéphyr en même temps que les plumes, ajoutaient à la variété du coup d'œil. Les barrières s'ouvrirent enfin, et cinq chevaliers, choisis par le sort, s'avancèrent lentement dans l'arène. Un seul champion à leur tête, et les quatre autres le suivant deux à deux. Tous étaient magnifiquement armés. Et mon autorité saxonne, le manuscrit de Wardour, rapporte en détail leurs devises, leurs couleurs et les broderies des harnais de leurs chevaux. Mais il est inutile de nous appesantir sur ce sujet, car, pour emprunter quelques vers à un poète, notre contemporain, qui n'en a composé que trop peu, ces braves chevaliers ne sont plus que poussière. La rouille a dévoré leurs lances meurtrières, et sans doute du ciel remplissant les desseins, leurs armes ont trouvé la demeure des saints. Leurs écussons, depuis longtemps couverts de rouille, ont disparu des murs de leur château, qui eux-mêmes ne sont plus que des tertres verts et des ruines dispersées. La place où s'élevaient jadis ces demeures orgueilleuses est à peine connue aujourd'hui, et une longue suite de générations a passé sur ces lieux où ils exerçaient la despotique autorité de seigneurs féodaux. À quoi donc servirait-il au lecteur de connaître leurs noms ou les symboles éclipsés de leur puissance ? Toutefois, ce jour-là, imprévoyant de l'oubli sous lequel devaient être ensevelis leurs noms et leurs prouesses, les champions s'avançaient dans la lice, retenant leurs fiers coursiers et les forçant à garder le pas pour faire ressortir la grâce de leur allure en même temps que la dextérité des cavaliers. Tout aussitôt, le bruit d'une musique étrangère s'éleva derrière les tentes des tenants. On reconnaissait dans cette harmonie son origine orientale, car les instruments avaient été rapportés de la Terre Sainte. Et le mélange du bruit des cymbales et des cloches semblait proclamer à la fois la bienvenue et porter un défi aux chevaliers qui se présentaient pour combattre. Tous les yeux des spectateurs étaient tournés vers les cinq champions et comme attachés à leurs pas. Ils montèrent sur la plateforme où s'élevaient les tentes et chacun alla toucher légèrement du revers de sa lance le bouclier de l'antagoniste avec lequel il désirait se mesurer. Les spectateurs de la classe subalterne, quelques-uns d'un rang plus élevé, et l'on dit même plusieurs dames, regrettèrent de les voir choisir les armes courtoises, car la même classe de personnes qui, de nos jours, applaudit avec le plus d'enthousiasme aux tragédies les plus terribles, s'intéressait alors à un tournoi en raison directe du danger que couraient ceux qui y prenaient part. Ayant ainsi fait connaître leurs intentions pacifiques, les assaillants se retirèrent à l'autre extrémité de la lice, où ils se mirent en ligne, pendant que les tenants, sortant chacun de leur tente, montaient sur leur coursier, Brian de Bois-Guilbert à leur tête, et descendaient de la plateforme pour venir lutter, chacun contre celui qui avait touché son bouclier respectif.
À la première fanfare des clairons et des trompettes, ils s'élancèrent au grand galop les uns contre les autres. Et telle fut la supériorité d'adresse ou la fortune des tenants que les antagonistes de Brian, de Malvoisin et de Front de Bœuf roulèrent ensemble dans la poussière. Celui de Grandménil, au lieu de diriger le bout de sa lance contre le casque ou le bouclier de son ennemi, dévia tellement de la ligne droite qu'il lui brisa son arme sur le corps, circonstance regardée comme plus honteuse que d'être désarçonné, parce qu'un simple accident pouvait amener cette disgrâce, au lieu qu'ici elle ne pouvait provenir que de la maladresse ou du manque d'expérience dans le maniement de la lance et du cheval. Le cinquième chevalier maintint seul l'honneur de son parti, et le templier et lui rompirent tous deux leurs lances sans qu'aucun n'eût l'avantage. Les cris de la multitude, les acclamations des héros et le son des trompettes annoncèrent le triomphe des vainqueurs et la défaite des vaincus. Les premiers regagnèrent leur pavillon, et les autres, se remettant de leur mieux, se retirèrent, honteux et humiliés, pour traiter avec leurs antagonistes du rachat de leurs armes et de leurs coursiers, qui, suivant les règles du tournoi, appartenaient de droit au vainqueur. Le cinquième resta seul dans l'arène, où il reçut les applaudissements des spectateurs, ce qui ajouta sans doute à la mortification de ses compagnons d'armes. Une deuxième et une troisième troupe de chevaliers entrèrent successivement en lice, et, quoiqu'avec des succès variés, ils laissèrent l'avantage aux tenants, dont aucun ne fut désarçonné, mésaventure qui, dans chaque rencontre, arriva à plusieurs de leurs adversaires. Un succès si constant amortit considérablement l'ardeur des chevaliers qui n'avaient pas encore combattu, et, à la quatrième entrée, trois d'entre eux seulement parurent dans la lice. Encore, évitant de toucher les boucliers de Bois Guilbert et de Front de Bœuf, ils se bornèrent à provoquer les trois autres chevaliers qui n'avaient montré ni la même force ni la même habileté. Cette manœuvre prudente ne changea point le hasard du combat, car les tenants furent encore victorieux. Un de leurs antagonistes fut renversé, et les deux autres tombèrent dans l'atin, c'est-à-dire qu'en frappant fortement le haubert et le bouclier de leurs antagonistes, leur lance s'écarta de la ligne droite et se fut brisée s'ils n'eussent été désarçonnés. Après cette quatrième rencontre, il y eut une pause assez longue. En effet, il ne paraissait pas qu'aucun chevalier voulût renouveler le combat. Les spectateurs murmuraient entre eux, car au nombre des tenants se trouvaient Malvoisin et Front de Bœuf, tous deux haïs du peuple à cause de la dureté de leur caractère. Et les autres étaient des étrangers, à l'exception de Grandménil. Cette désapprobation générale ne fut plus vivement partagée par personne que par Cédric le Saxon, qui, dans l'avantage obtenu par les chevaliers normands, voyait un nouveau triomphe pour les oppresseurs de son pays. Son éducation ne l'avait nullement rendu apte à prendre part à ces jeux guerriers, quoique, dans bien des occasions, avec les armes de ses ancêtres, il eût montré une grande bravoure. Et il jetait avec inquiétude ses regards. Sur Athelstan, qui s'y était souvent exercé, comme s'il eût désiré lui faire faire un effort pour enlever la victoire aux Templiers. Mais, quoiqu'il ne manquât ni de courage ni de force, Athelstan était trop indolent et avait trop peu d'ambition pour répondre à ce que Cédric semblait attendre de lui. « Cette journée est honteuse pour l'Angleterre, milord, » lui dit Cédric d'une voix altérée. « Ne lèverez-vous point la lance ?»«
J'attendrai à demain, » répondit Athelstan. « Je me réserve pour la mêlée. Ce ne serait pas la peine de prendre les armes aujourd'hui. »
Deux choses déplurent à Cédric dans cette réponse. D'abord, elle contenait le mot normand « mêlée », expression par laquelle on désignait l'action générale. Ensuite, elle témoignait une sorte d'indifférence pour l'honneur du pays. Cependant, plein de vénération pour les aïeux d'Athelstan, Cédric n'osait se plaindre de cette marque de faiblesse. D'ailleurs, il n'eut pas le temps de faire la moindre observation, car Vamba plaça aussi son mot. « Il vaut mieux, dit-il, être le premier entre 100 que le premier sur 2. » Athelstan prit cette observation pour un compliment réel, mais Cédric, qui saisit mieux l'intention du bouffon, lui lança un regard sévère et menaçant. Et il fut heureux pour Vamba que le temps et le lieu ne permissent point au farouche Saxon de lui donner des témoignages plus sensibles de son ressentiment. Le tournoi restait toujours comme suspendu, et de temps à autre les héros d'armes criaient « Amour d'âme, lance, brisez-vous ! En avant, brave chevalier, de beaux yeux contemplent vos exploits !» La musique des tenants faisait entendre par intervalles des airs de triomphe et de défi, tandis que la foule voyait à regret que les instants de la fête s'écoulaient dans l'inaction. Les vieux chevaliers et les vieux nobles, déplorant à voix basse le déclin de l'esprit martial, parlaient du triomphe de leurs jeunes ans, mais aussi reconnaissaient-ils que l'Angleterre n'offrait plus de beauté aussi merveilleuse que celle qui présidait à leur joute. et déjà le prince Jean parlait à sa suite des préparatifs du banquet et de la nécessité de décerner le prix à Brian de Boisguilbert, qui, sans briser une seule lance, avait désarçonné deux chevaliers et surpassé le troisième en adresse. Tout à coup, comme la musique sarrasine des tenants venait d'exécuter une de ces longues et éclatantes fanfares dont elle faisait retentir l'air depuis la suspension du tournoi, une seule trompette y répondit par un défi à l'extrémité septentrionale. Tous les yeux se tournèrent de ce côté pour voir le nouveau champion qu'annonçait une fanfare aussi téméraire. Et la barrière ne fut pas plus tôt ouverte qu'il entra dans la lice. Autant que l'on pouvait juger d'un homme revêtu de son armure, le nouvel aventurier paraissait de moyenne taille et plus élancé que robuste. Sa cuirasse était d'acier richement damasquiné en or et son bouclier, où pour toute armoirie était dessiné un jeune chêne déraciné, laissait lire pour devise le mot espagnol « desdichado », c'est-à-dire « déshérité ». Il montait un superbe cheval noir, et traversant la lice, il salua avec grâce le prince Jean et les dames en baissant le fer de sa lance. L'adresse avec laquelle il gouvernait son cheval, son air de jeunesse et la courtoisie qu'il montrait lui gagnèrent la faveur de la multitude, et quelques groupes des classes inférieures lui témoignèrent en criant « Touchez le bouclier de Ralph de Vipon! Touchez le bouclier du chevalier hospitalier! Il est le moins ferme en selle et sera plus aisé à vaincre !» Au milieu de ces encourageantes acclamations, le nouveau champion se dirigea vers la plateforme, y monta par l'avenue en pente douce qui communiquait avec la lice, et, au grand étonnement des spectateurs, dirigeant son coursier en droite ligne vers le pavillon central, alla frapper fortement de la pointe de sa lance le bouclier de Brian de Boisguilbert, au point de lui faire rendre un son prolongé. À une telle présomption, la surprise devint extrême, mais personne ne fut plus étonné que le redoutable Templier en recevant ce défi à outrance. « Vous êtes-vous confessé, mon frère ? » demanda-t-il. « Et avez-vous entendu la messe ce matin, pour mettre ainsi votre vie en péril ?»« Je suis mieux préparé que toi à mourir, » lui répondit le chevalier déshérité. Car c'était sous ce nom que l'inconnu s'était fait inscrire parmi les assaillants. « Prenez donc place dans la liste, » dit Boisguilbert, « et regardez pour la dernière fois le soleil, car cette nuit même vous dormirez en paradis. »« Grand merci de ta courtoisie. Pour t'en prouver ma reconnaissance, je te conseille de prendre un cheval frais et une lance neuve, car sur mon honneur, tu auras besoin de l'un et de l'autre. » Après s'être exprimé avec tant de confiance, il fit descendre son cheval à reculons de la plateforme et le força à parcourir de la même manière toute la lice jusqu'à l'extrémité septentrionale, où il demeura stationnaire en attendant son fier antagoniste. Cette habileté dans l'art de l'équitation lui valut de nouveaux applaudissements. Tout irrité qu'il fût contre un adversaire qui osait lui recommander de prendre ses précautions, Brian de Boisguilbert ne les négligea point, car son honneur y était trop intéressé. Il choisit donc un nouveau cheval, plein de feu et d'ardeur, et une nouvelle lance, de peur que le bois de la première n'eût été affaibli par les précédentes rencontres. Enfin, il prit un autre bouclier, le soin ayant été un peu endommagé. Le premier ne portait d'autre devise que celle de son ordre, deux chevaliers montés sur le même coursier, emblème expressif de l'humilité et de la pauvreté primitive des Templiers, vertu que depuis ils avaient changée pour l'arrogance et les richesses, qui amenèrent leur suppression. Son nouvel écu représentait un corbeau en plein vol, tenant un crâne dans ses serres et portant pour devise « Gare le corbeau ». Lorsque les deux champions se trouvèrent en face l'un de l'autre, aux deux extrémités de la lice, l'impatience des spectateurs fut à son comble. Presque tous formaient des vœux pour le chevalier déshérité, mais bien peu espéraient le voir triompher. Enfin, les trompettes donnèrent le signal, et, s'élançant l'un contre l'autre, avec la rapidité de l'éclair, les deux combattants se rencontrèrent au milieu de l'arène avec un bruit semblable à celui du tonnerre. Leurs lances volèrent en éclats, et on les crut un moment tous les deux renversés, car le choc avait été si violent qu'il avait fait plier les chevaux sur leurs jarrets. Mais leur adresse à se servir de la bride et de l'éperon les maintint en selle. Se regardant alors avec des yeux étincelants qui semblaient lancer la flamme à travers leurs visières, ils firent volte-face et, se retirant à l'extrémité de la lice, reçurent chacun une nouvelle lance de la main de leur écuyer. Une bruyante acclamation, le balancement des écharpes et des mouchoirs qui faisaient flotter les dames, prouvèrent tout l'intérêt que les spectateurs prenaient à cette rencontre, la plus égale et la plus savante qu'ils eussent applaudi en ce jour. Mais les deux chevaliers n'eurent pas plutôt repris leurs stations respectives que les applaudissements universels firent place à un silence tellement profond qu'il semblait que la foule craignît même de respirer. Après un répit de quelques minutes accordé aux deux champions afin que leurs coursiers reprissent haleine, le prince Jean, armé de son bâton de commandement, fit signe aux trompettes de sonner la charge. Alors ils s'élancèrent de nouveau avec une égale impétuosité, et se heurtèrent au milieu de la lice avec la même dextérité, la même violence, mais non avec la même fortune. Dans cette seconde rencontre, le templier dirigea sa lance vers le centre du bouclier de son antagoniste, qu'il frappa si juste et avec tant de vigueur que sa lance vola en éclats. Le chevalier déshérité chancela sur sa selle. De son côté, celui-ci, au commencement de sa course, avait dirigé sa lance contre le bouclier de Boisgulbert, mais, changeant de but au moment de le frapper, il pointa le haubert, endroit plus difficile à toucher, mais qui, lorsqu'on l'atteignait, rendait le choc irrésistible. Malgré ce désavantage, le templier soutint sa haute réputation, et si la sangle de sa selle ne s'était rompue, il n'eût pas vidé les arçons. Par suite de cet accident, la selle, le coursier et le cavalier roulèrent dans la poussière. Se dégager des étriers et se relever fut pour Boisgulbert l'affaire d'un moment. Plein de fureur, il tire son épée et la brandit en signe de défi devant son adversaire, qui, sautant aussitôt à terre, tire pareillement la sienne. Mais les maréchaux du tournoi, poussant leurs chevaux entre les deux combattants, vinrent leur rappeler que ce genre de combat ne pouvait leur être permis dans la circonstance présente. « Nous nous retrouverons, je l'espère, » dit le templier en jetant un regard de courroux sur son vainqueur, « et dans un endroit où personne ne pourra nous séparer. »« Si cela n'a pas lieu, » répondit le chevalier déshérité, « la faute n'en sera point à moi. À pied ou à cheval, avec la lance, la hache d'armes ou l'épée, je suis prêt à te faire face. » Les deux chevaliers ne se seraient pas bornés à ces provocations si les maréchaux du tournoi, plaçant leurs lances entre eux, ne les eussent séparés comme par force. Le chevalier déshérité retourna vers la porte septentrionale et le templier se retira dans sa tente, où tout le reste du jour il se livra au désespoir et à la rage. Sans descendre de cheval, le vainqueur, revenu à sa première station, demanda une coupe de vin et, levant la visière de son casque, « Je bois, dit-il, aux véritables cœurs anglais et à la confusion des tyrans étrangers. » Il commanda alors à son trompette de sonner un défi aux tenants et pria un héros de leur annoncer qu'il ne ferait aucun choix parmi eux, mais qu'il voulait les combattre dans l'ordre où il leur plairait de se présenter. Le gigantesque front de bœuf, couvert d'une armure noire, descendit le premier dans l'arène. Sur un fond d'argent, son bouclier portait une tête de taureau noir à demi effacée par suite des nombreux combats qu'il avait soutenus, avec cette arrogante devise « Cave atsum »« Gare, me voici ». Le chevalier déshérité obtint sur cet antagoniste un avantage léger mais décisif. Les deux champions brisèrent également leurs lances, mais Front de Bœuf ayant perdu les étriers dans le choc, les maréchaux le déclarèrent aussi vaincu. Le chevalier déshérité n'eut pas moins de bonheur contre Sir Philippe de Malvoisin. Il frappa le casque de ce baron avec une telle violence que les courroies se rompirent, et Malvoisin, trop heureux de n'être pas désarçonné, fut déclaré vaincu. Dans sa rencontre avec Hugues de Grandménil, le chevalier déshérité fit preuve d'autant de courtoisie qu'il avait jusqu'alors montré d'adresse et de courage. Le chevalier de Grandménil, qui était jeune et fougueux, se cabra en s'élançant dans l'arène, de telle sorte que son maître ne put faire usage de sa lance. L'inconnu, refusant de profiter de l'avantage que cette circonstance lui offrait, leva sa lance et passa près de son antagoniste sans le toucher. Puis, faisant faire une volte à son cheval, il se dirigea vers la porte septentrionale de la lice, d'où il envoya un héros offrir à Grandménil la chance d'un second combat. Celui-ci refusa, s'avouant vaincu autant par la courtoisie que par l'adresse de son antagoniste. Ralph de Vipon vint ajouter encore au triomphe de l'étranger. Renversé de son cheval avec une extrême violence, le sang lui sortit par la bouche et par les narines. Ses écuyers le relevèrent comme mort. Le prince et les maréchaux déclarèrent alors, à l'unanimité, que l'honneur de la journée appartenait au chevalier déshérité, décision qui fut accueillie avec des acclamations universelles.